Voilà, merci à tous de votre présence. Nous allons donc démarrer cette table ronde d'abord par un petit mot d'accueil et puis ensuite je vous présenterai nos intervenants.
Merci Marie-Yvonne. Bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette, pour cette première table ronde. Il va y en avoir plusieurs, une autre ce soir avec Sonia Alexandre Poussin. Demain matin sur spiritualité au féminin avec, avec des chemins qu'on a envie de découvrir, le chemin de Sainte-Agathe vers Sainte-Anne-d'Auray, et puis j'ai oublié minablement le troisième,
Marie-Madeleine.
Et Marie-Madeleine, pardon. Voilà. Il y aura aussi demain un spécial jubilé vers Rome. Voilà, c'est une grande année jubilaire cette année, donc voilà, ça arrive une fois tous les 25 ans. Mais dans l'immédiat, on va s'en aller vers Jérusalem et les chemins qui y mènent. Merci à nos invités, merci à Marie-Yvonne qui vient spécialement ici pour animer cette table ronde et bien sûr merci à l'Hebdo Pèlerin.
Voilà, oui, je viens donc au titre de la rédaction du Pèlerin qui, comme son nom l'indique, est un hebdomadaire qui est né avec les pèlerinages au départ comme un petit bulletin pour informer les pèlerins qui, à l'époque, il y a 150 ans, partaient à Lourdes. Et puis petit à petit, il est devenu l'hebdo généraliste qu'il est aujourd'hui. Mais donc, nous portons avec joie ce titre et qui vous parle évidemment particulièrement ici. Voilà, alors j'ai la joie d'accueillir une belle assemblée autour de moi, trois personnes que je vais vous présenter et dont le point commun est évidemment Jérusalem, une destination qui a une importance ou qui continue à avoir une importance très forte dans leur vie. Alors, à ma gauche, Jérôme Audidier. Jérôme, vous êtes directeur du service des pèlerinages du diocèse de Nantes.
Oui, tout à fait.
Voilà. C'est une charge, une responsabilité que vous avez accepté de prendre il y a 9 ans, je crois,
oui.
Au moment de votre départ, après votre départ à la retraite. Et la charge donc, de ce service, comme son nom l'indique, est de proposer des pèlerinages, d'accompagner les paroisses, les mouvements, mais aussi des personnes individuelles, on en reparlera tout à l'heure, qui ont besoin d'être aidées, encadrées, et dans cette démarche pèlerine. Alors, votre programme, je crois, vous avez des grandes destinations classiques que peuvent être Lourdes, Rome, la Terre Sainte, mais évidemment aussi le Portugal avec Fatima, l'Espagne avec Thérèse d'Avila.
Oui, et Ignace de Loyola.
Et Ignace de Loyola, et même l'Arménie, je crois.
Et l'Arménie cette année aussi.
Voilà, berceau du christianisme. Donc, un riche programme, et on reviendra sur la façon dont vous accompagnez les pèlerins. Toujours à ma gauche, donc Aliénor Vidal de la Blache. Donc votre camp de base, c'est la Savoie, à Chambéry. Voilà. Depuis 15 ans, vous travaillez dans le monde associatif et vous avez donc marché pendant 8 mois vers Jérusalem. Avec déjà une passion pour la marche et puis là, sans doute des motivations particulières pour ce pèlerinage que vous avez réalisé en 2017. À ma droite, Jean-Claude Morisset, vous êtes retraité, vous avez de multiples casquettes, entre autres actuellement celle de conseiller municipal. Et vous êtes parti un matin de mai, le 9 mai 2009, vers Jérusalem. Mais vous aviez auparavant pratiqué, vous étiez largement entraîné, puisque vous êtes, je crois, un récidiviste de Compostelle, d'après ce que j'ai pu lire.
Oui, il fallait bien s'entraîner et vérifier que le bourricot était capable d'en faire un peu plus.
Voilà. Donc, vous n'étiez pas du tout un marcheur novice quand vous vous êtes dirigé vers Jérusalem. Voilà. Et nous allons donc échanger sur vos motivations. Donc, nous allons démarrer par Aliénor et Jean-Claude, plutôt sur votre démarche de marcheur individuel. Et ensuite, on s'intéressera un peu plus à ce que ça signifie de partir en groupe. Pour tous les deux, nous aurons à la fin de cette table ronde, donc dans un peu moins d'une heure, un temps de dédicace possible au même étage, juste à la sortie de la salle. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez voir et faire dédicacer les deux ouvrages en question. Donc pour Jean-Claude, c'est une édition enrichie, une réédition. Je vous écrirai de Jérusalem. Et pour Aliénor, Seul à pied vers Jérusalem chez Salvatore. Voilà. Et c'est aussi tout récent, 2024, hein, me semble-t-il.
Il est sorti il y a un an.
Voilà, il y a pile un an. Donc, de quoi aller plus loin dans la découverte de cette destination mythique voilà, pour le pèlerin et le marcheur. Alors, si je démarre un petit peu, Jean-Claude et Aliénor, pour comprendre à la fois vos similitudes et peut-être ce qui vous sépare. Il y a un point qui m'intéresse, c'est que tous les deux, vous n'êtes pas partis d'un sanctuaire ou d'un point précis. Vous avez voulu partir l'un et l'autre de chez vous. Pourquoi ce désir, Aliénor, de partir à domicile ?
Vous m'entendez ? C'est bon ? Non ? Là ? Toujours pas ?
Alors, on va partager notre micro. Ça doit aller.
Ouais, là, c'est mieux ? Ok. Je suis partie de chez moi. En fait, je me suis vraiment. Donc, j'habitais à Paris à l'époque. Donc, je suis partie de Paris. Et je me suis posé la question du lieu de départ. Classiquement, on parlait de Notre-Dame parce que c'est vrai qu'à Paris, on pense à Notre-Dame. Je crois que les Cortés, c'est ce couple qui avait été à pied à Jérusalem, était parti aussi de Notre-Dame. Mais moi, ça ne me parlait pas beaucoup. Pas que j'aime pas Notre-Dame, mais. En fait, ça ne représentait pas grand-chose pour moi. Et puis, quand les gens qui me parlaient de Notre-Dame, ils me parlaient aussi des croisades. Je ne sais pas si les croisades partaient de Notre-Dame, j'en sais rien. Mais moi, je n'avais pas forcément envie d'être associée aux croisades. Enfin, en tout cas, dans ma démarche personnelle, il n'y avait pas de lien. Les croisades, ça guerre. Enfin, pour moi, ça reste une guerre sainte peut-être, mais une conquête de territoire. Et je me sentais très loin de ça. Donc ça ne me parlait pas du tout. Et puis, en fait, je partais vers le dépouillement, le dénuement. Et je trouvais ça beau symboliquement de partir de chez moi, donc de ma sécurité, de mon confort. Alors, à la fin, j'avais déjà enlevé toutes mes affaires, donc je dormais par terre, il n'y avait plus beaucoup de confort, je me suis habituée. Mais de partir voilà, quand même de ma sécurité, de mon confort et de mon lieu de vie pour aller vers l'inconnu, vers le dépouillement, vers l'abandon. Donc en fait, ce symbole-là me parlait beaucoup plus. Et le second symbole qui était important pour moi, c'était ma seconde étape, enfin ma première étape d'ailleurs plutôt, c'était chez ma grand-mère. Qui n'était pas du tout d'accord avec ce projet de voyage, qui m'en a voulu énormément, mais n'empêche que c'est quelqu'un d'important pour moi dans ma vie, de même plus qu'important, et je trouvais ça beau de partir, de passer chez elle. Donc j'ai commencé à partir plein ouest, parce qu'elle habitait dans les Yvelines, à Versailles, donc à l'opposé de Jérusalem, et ma première nuit où j'ai demandé l'hospitalité, c'était chez ma grand-mère. Et là, moi, j'ai senti que mon vrai départ, c'était quand je partais de chez elle, un appartement que je connaissais depuis l'enfance. Et là, ça a été aussi très émouvant. J'ai eu l'impression de, avec ma grand-mère et ma mère qui me faisaient au revoir depuis le haut de la fenêtre, mais j'étais en larmes. et voilà, là, c'était quelque chose quand même.
Voilà, donc l'importance peut-être de bien choisir son point de départ. Et de votre côté, Jean-Claude, donc la Vendée, Montaigu.
Oui, donc pour les premiers Compostelle, j'étais parti de soit du Puy, soit de Bayonne, soit de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et quand ça a mûri pour Jérusalem, pour moi, c'était évident de partir de la maison parce que c'était comme ça. Enfin, ça paraissait tout à fait évident. Et alors, pourquoi Jérusalem ? Bon, ceux qui ont, ou celles qui ont pu lire le livre, on m'avait posé la question lorsque j'étais arrivé à Antioche et une Iranienne qui était là qui m'avait répondu « Quand tu reviendras, tu ne sauras même pas pourquoi tu es allé. » Et puis... c'était plus parce que y aller, j'avais dit aussi, si j'avais dit à certains que j'allais à Moscou ou à Helsinki ou je ne sais pas où, et par contre, Jérusalem, j'avais toujours un regard, les yeux qui brillaient, donc ça correspond à, je pense, à des souhaits ou des envies de beaucoup. Et Jérusalem, bon, bah, c'est notre histoire, qu'on la partage ou qu'on ne la partage pas, mais c'est quand même l'histoire de plus de 2000 ans. Même si on n'est pas très très pratiquant comme moi, mais c'est tout ce qu'on a pu apprendre au catéchisme qui nous remonte à l'esprit. Et puis après, donc traverser, on va peut-être en parler après, par où je suis passé.
Alors on parlera un petit peu de l'itinéraire. Alors peut-être que je peux rappeler rapidement, je vais m'aider de la carte qui figure au début du livre d'Aliénor, mais évidemment, Jérusalem, ça permet de traverser une quantité de pays, donc dans les étapes, l'Italie, la Slovénie, la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie, la Grèce. Ensuite, il y a la traversée de la Méditerranée d'une manière ou d'une autre. À trouver, et puis avant d'arriver en Terre Sainte. Donc, c'est une balade, alors suivant le point de départ, 7000, 8000 kilomètres. Voilà, c'est pas rien. Alors, moi, une chose m'intéresse pour tous les deux, et qui intéresse, je pense, beaucoup de marcheurs, c'est vous, l'un et l'autre dans votre livre, vous le dites, c'était le moment, voilà, une sorte d'appel. Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant et pas plus tard, et comment sait-on pourquoi il y a cette forme d'évidence qu'on fait que, c'est, que le moment est venu ? Aliénor.
C'est une bonne question. Comment est-ce que, au départ, le déclic pour moi, ça n'a pas été Jérusalem, ça n'a même pas été un pèlerinage. C'était en 2015, je crois, j'étais à un festival d'aventure. Et c'est en voyant les films, en lisant les livres de tous ceux qui faisaient des voyages et qui vivaient des aventures, ça a été ça mon déclic. Après, je me suis dit, OK, je veux faire un long voyage à pied parce que c'est quand même le seul truc que je sais faire, c'est marcher. Donc, mais pour aller où, pour faire quoi ? Si c'est juste pour battre un record, enfin, c'est pas très intéressant. Et puis, je sentais bien que j'avais un désir au fond de moi qui serait pas assouvi par juste une aventure, juste un voyage. Donc, peu à peu, l'idée s'est imposée de Jérusalem, presque par opportunisme, j'ai envie de dire, parce que en fait, j'avais pas jamais fantasmé sur Jérusalem. Je m'étais jamais juré d'y aller à pied ni d'une autre manière. C'est plus que c'était assez loin pour justifier que ce soit l'aventure, parce que je voulais garder cette dimension-là, et suffisamment symbolique spirituellement pour me faire réfléchir sur le chemin, je ne sais pas à quoi, mais sûrement je réfléchirai. Donc le déclic, ça a été d'abord l'aventure, et effectivement, je pense que c'est marrant, parce que c'est un long cheminement de toute ma vie, finalement, qui a été nourri beaucoup de lectures pour ma part, de rêves, d'admiration de ce que faisaient les gens, jusqu'au jour où il y a eu une bascule et d'un coup, il fallait que ça devienne moi, il fallait que je passe du rêve à la réalité et à le vivre. Et ce point de déclic pour moi, ce n'était pas Jérusalem, mais c'était l'aventure.
Jean-Claude, de votre côté, vous qui aviez déjà de longues expériences de marche, qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, il a fallu que ce soit Jérusalem ?
C'était au dernière fois que je suis allé à Compostelle. Donc, quand on arrive sur la place à Compostelle, donc on était plusieurs Français, et tout le monde dit bah, l'année prochaine, qu'est-ce que tu fais ? C'est le truc classique, je pense qu'on l'a tous eu plus ou moins. Et il y a quelqu'un qui me dit, enfin, on discute, il me dit moi, j'ai prévu, je voudrais aller à Jérusalem. Et la personne me répond vas-y, dès l'année prochaine, tu es en forme, ne t'occupe pas. Et donc, après, ça. J'avais déjà mûri parce qu'en 2003 ou 4 ou 5, j'avais lu un livre qui s'appelle « Pèlerin d'Orient » de François-Xavier de Villemagne. Et la lecture me faisait que c'était possible, à mon niveau, d'aller à Jérusalem. Parce que dans le même temps, si on lisait les livres de Bernard Olivier, « La route de la soie », pour moi, c'était impossible. Et en plus, il y avait l'aspect Jérusalem qui faisait que... Et puis aussi, derrière, il y avait l'envie de découvrir d'autres pays. Et c'est vrai que les trois premiers, c'est facile. C'était la France, la Suisse et l'Autriche. Donc là, j'étais encore en Europe de l'Ouest, avec l'ex-Europe de l'Ouest, avec des formats qu'on a pu connaître. Après, il y a eu la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Bon, là, on change de format, entre guillemets. On s'habitue, mais comme on marche déjà depuis de nombreux jours, on s'habitue tous les jours au changement. Ensuite, bon, il y a eu la découverte du monde musulman. Où, alors là, c'est bon, la Turquie. Et la Turquie, il y avait la Turquie européenne, c'est-à-dire de Silvengard jusqu'à Istanbul, où là, on est encore dans le format européen. Mais dès qu'on passe le Bosphore, bon, bah, après, ça, on tombe dans... J'étais passé par la Cappadoce, en Konya, à redescendre sur Adana, avec une incursion à Chypre. Et puis, et ben après, c'est la Syrie, le Liban, Re-Syrie, Jordanie, et puis Égypte, parce que je suis allé au Mont Sinaï, et Israël. Donc, et ce qu'il faut oublier, moi, c'était en 2009, donc c'était bien avant les printemps arabes, donc tout allait bien. Et pour notre... ce qu'on pouvait échanger tout à l'heure. Pour la Syrie, la géopolitique, c'est une chose extraordinaire. Il ne faut pas oublier qu'en 2008, Bachar, qui a tous les défauts possibles et imaginables, était quand même avec le président Sarkozy au 14 juillet sur les Champs-Élysées. Des fois, il faut quand même relativiser beaucoup de choses.
Voilà, donc vous avez eu des itinéraires en partie distincts. Peut-être pour revenir sur ce déclic qui fait qu'on va vers Jérusalem, Jérôme, y compris évidemment dans les pèlerinages de groupe, c'est une destination phare. On va faire un petit peu abstraction évidemment du contexte actuel qui complique beaucoup les pèlerinages de groupe, mais pour ce que vous pouvez observer depuis le service diocésain des pèlerinages, cette attraction de Jérusalem reste très forte.
Oui, elle reste très forte parce que les pèlerins que nous emmenons sont pour beaucoup chrétiens. Et Jérusalem, la Terre Sainte, c'est le pèlerinage d'une vie. Hein. Beaucoup se préparent depuis longtemps en disant dès qu'on aura un peu de temps, dès qu'on sera à la retraite, souvent c'est le début de la retraite, on part à Jérusalem. Voilà, donc c'est souvent une décision mûrie depuis longtemps. Pour d'autres, ça peut être aussi, nos amis partent, pourquoi pas. Voilà. Il peut y avoir ce déclic-là.
Merci. Alors, voilà, ce déclic, on y va. Cette fois-ci, c'est parti. Il y a malgré tout des choix à faire dans la façon de marcher, de pèleriner. Et vous avez fait des choix qui peuvent être différents, l'un et l'autre, Aliénor et Jean-Claude. Alors là, il y en a quand même un qui vous réunit, c'est que tous les deux, vous avez choisi de partir seul. Aliénor, est-ce que c'était important pour vous, cette solitude ? J'ai retenu dans votre livre cette belle formule. Cette solitude qui m'emmène loin du regard des autres et du bruit du monde me fait me sentir entièrement à ma place.
C'est vrai que c'était une évidence que je partirais seule. Déjà parce que ça aurait peut-être été compliqué de trouver quelqu'un prêt à faire ce genre de marche-là. Et puis je ne sais pas, je vis les choses beaucoup plus intensément quand je suis seule. Je savais aussi que la quête qui m'animait, j'avais besoin d'être seule pour lui laisser la place d'exister. Enfin, toutes ces réflexions que j'avais, ce besoin de sens. Moi, quand je suis avec quelqu'un, je peux vite être bavarde et tourner vers l'autre. Mais quand je suis seule, je vais être beaucoup plus présente à ce qui se passe, que ce soit à la nature, à la marche. Et puis, la rencontre est très différente, surtout que je partais, je demandais l'hospitalité. Et c'est vraiment autre chose d'être seule. Donc, bien sûr, je me suis posé les questions, parce qu'on me la posait, en fait. Mais t'as pas peur, t'es une femme, tout ça. Mais en fait, je n'avais pas du tout envie de sacrifier mon rêve parce que je suis une femme, enfin, au contraire. Donc pour moi, ça a vraiment été une évidence que je n'ai pas beaucoup questionnée parce que j'étais sûre que c'était ça que je voulais vivre. Alors, j'ai quand même quelques amis qui m'ont rejoint sur le chemin, qui venaient marcher une semaine. Et ça, c'était chouette par moment de partager mon chemin, d'avoir des gens avec qui... Enfin, c'est une autre façon d'avancer, en fait, et d'avoir des interlocuteurs avec qui échanger sur ce qu'on vit. Mais au début, c'était très dur pour moi quand ils partaient, parce que je me retrouvais seule. À la fin, parfois, j'oubliais même qu'ils étaient là quand je marchais. Une fois, un ami qui m'a fait une remarque, il me dit « Tu pourrais ralentir un peu ?» J'avais complètement oublié qu'il était derrière moi. Parce que c'était tellement devenu ma routine, mon habitude, que quand ils partaient, j'étais bien sûr un peu triste, mais en fait, je retrouvais l'état dans lequel je m'étais habituée à être.
Jean-Claude, pour vous aussi, marcher seul, ça a du sens, c'est quelque chose de...
Oui, j'avais fait une première fois quand j'étais à la Compostelle avec un ami. C'était très bien passé. Hein. Mais après, je me dis, maintenant, je le fais tout seul. Parce que d'abord, on est beaucoup plus disponible pour l'autre. Et quand on rencontre l'autre, on est accueilli, on n'arrive pas en force. Comme bon. Et puis, on est obligé de se mettre à disposition et on n'arrive pas en conquérant. Et je me suis aperçu plus d'une fois que le fait d'être seul, ça simplifiait beaucoup de choses. Et il y a une chose aussi, bon, je le dis en souriant, quand on a besoin de s'engueuler, on est tranquille. Hein? Là, on est tranquille. Bon, après, il y a des fois, il y a des petits soucis, mais ça me paraissait, et c'est tellement plus facile. Et maintenant, souvent, je le mets quelquefois dans les dédicaces du livre. Pour moi, en chemin, tout se simplifie. Tout devient simple parce qu'on n'a plus qu'à marcher. Bon, après, il faut essayer de trouver un hébergement. Et j'avais une règle, enfin, deux ou trois petites règles avant de partir. C'était, si possible, chaque jour, un repas chaud. Comme on était en 2009, les smartphones, ça n'existait pas. Donc, j'avais un blog. Donc, c'était de mettre à jour mon blog tous les deux ou trois jours, ou trois ou quatre jours. Comme ça me permettait de rester en phase avec tous ceux qui pouvaient me suivre. Et parce que c'est très facile, je me suis aperçu, je le disais tout à l'heure, c'est très facile et il faut comprendre les SDF, parce qu'à un moment, on est tellement dans une espèce de monde second que on va continuer comme ça, on s'occupe de rien, on marche, on se débrouille, il y a des petites cagades, mais tout va bien.
Alors, il y a quand même un point qui vous distingue, c'est que vous, Aliénor, vous aviez vraiment pris le parti pris de demander systématiquement l'hébergement chez l'habitant, ce qui n'était pas du tout votre démarche. Alors, pourquoi Aliénor et pourquoi la démarche inverse, Jean-Claude?
Alors, moi aussi, je m'étais fixé des règles. Donc, moi, ça doit être un truc de marcheur à Jérusalem. Donc, je m'étais fixé 3 règles, ne pas faire de stop. J'avais 5 euros par jour pour vivre, donc je n'étais pas en complète mendicité. Mes 5 euros me servaient pour, je sais pas tout, sauf l'hébergement, parce que donc, ma troisième règle, c'était que je demandais l'hospitalité. Et c'était important pour moi pour 2 raisons. La première, c'était que je suis partie en 2017, donc quelques années après le début de la guerre en Syrie. Et allez, on parlait, je dis à l'époque, mais enfin, c'est toujours le cas aujourd'hui, et c'était le cas avant, mais on parlait beaucoup d'accueil, d'hospitalité, en questionnant un peu nos capacités. Est-ce que l'Europe sait encore être hospitalière? Est-ce qu'on n'est pas trop venu tellement individualiste et fermé sur nous qu'on ne sait plus accueillir l'étranger? Enfin, il y avait beaucoup de débats comme ça dans les journaux et dans les voilà. Et moi, ça me perturbait. Je me disais, mais cette Europe enfermée sur elle-même, individualiste, c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. C'est pas celui que je vois non plus forcément. Et j'avais une espèce d'envie d'éprouver qu'en Europe, on est capable d'être accueillant envers. Alors, je suis une étrangère, je suis une Française avec mon sac. Je vais à Jérusalem. Je suis dans un cadre précis, hein, mais quand même, j'ai envie d'éprouver. Mais est-ce qu'on est capable d'ouvrir sa porte à quelqu'un de passage? Donc voilà, j'avais cette envie un peu de me frotter à ça et de tester un peu la générosité et l'hospitalité aujourd'hui. Et puis la deuxième raison qui est plus spirituelle, j'avais besoin, donc je vous ai dit que j'avais une espèce de quête de sens. Et moi je suis chrétienne, je croyais déjà en Dieu à l'époque, hein, mais j'avais du mal à croire qu'il prenait soin de moi, qu'il s'occupait de moi. Il était planqué dans une poche, je le sortais quand j'avais besoin de lui, mais pour le reste, j'étais pas trop sûre qu'il était présent, il s'occupait de moi en fait. Et là, c'était une manière un peu adolescente de dire, ok, je vais sauter sans filet, je vais bien voir si tu es là pour me récupérer. Donc tous les matins, je vais quitter ma sécurité et le soir, je verrai bien si tu m'as préparé un petit quelque chose. Il y a un pasteur en Albanie, quand je lui ai expliqué ça, il était atterré, il me disait, mais enfin, il n'y a pas besoin de partir pour croire en Dieu. Je dis là, non, sûrement pas, mais moi, je suis faible et j'avais besoin de ça. Donc j'avais aussi ce fort besoin d'éprouver que Dieu allait prendre soin de moi. C'est un peu un truc à la Clovis, hein, vous savez, si tu me donnes la victoire, je me convertis. Mais c'est un peu un truc comme ça, en fait. Pas très glorieux. Hein. Mais ça marche, c'est incroyable. Donc en fait, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait.
Alors vous, Jean-Claude, vous n'avez pas fait ce genre de pari risqué. Mais pourquoi justement ne pas se reposer sur l'hospitalité au fil du chemin, mais plutôt organiser les choses?
Je rebondis sur ce que on vient de vous dire. Je pense que c'est plus facile de réussir si on est faible. Parce qu'on met en œuvre, les neurones se mettent en œuvre pour arriver à des choses positives. Alors pourquoi? Dans mon esprit, non, c'était... par contre, j'avais mes 4 premiers hébergements en Vendée. Une fois que je suis sorti de la Vendée, j'avais plus d'aimant, donc je partais après. Et après, j'avais un hébergement en Suisse d'assurés, mais je ne sais pas si Annette et Claude sont là. Non, ils ne sont pas là. Ensuite, j'avais un hébergement où j'étais sûr, c'était en Autriche. Ensuite, j'en avais un autre, c'était à Istanbul. Après, j'en ai eu d'autres. Après, j'ai eu Antioche, les petits frères de Jésus. J'ai eu Beyrouth, les petits frères de Jésus. Et à l'arrivée, chez Ecce Homo à Jérusalem. Sinon, après, je me débrouillais. Alors, c'est vrai que c'est un coût, mais bon, j'avais intégré dans ma...
Dans votre budget, vous aviez intégré...
Dans la démarche, mais on s'aperçoit qu'on ne dépense pas autant que ça. Et on s'aperçoit, lorsqu'on marche au ras des pâquerettes, j'ai eu peut-être 2 fois ou 3 fois des semblants de peur. Mais sinon, toutes les personnes rencontrées, c'est toujours très, très bien passé.
Alors là et l'autre, vous avez marché seul avec une logistique éventuellement différente. Mais pour l'un comme pour l'autre, quand vous disiez que vous partiez à Jérusalem, ça déclenchait quelque chose. On vous demandait de porter des intentions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Aliénor?
Alors déjà, au début, je n'osais pas trop le dire. Pas parce que j'avais honte ni rien, mais parce que ça me semblait tellement improbable. J'avais moi-même du mal à me sentir légitime, à me dire « je vais aller à Jérusalem à pied ». Donc parfois je dis je vais par là en indiquant les Alpes, enfin quand on est dans la Beauce, hein, c'est un peu loin quand même. Donc il m'a fallu un peu de temps pour le dire, et je m'étais posé la question de en France comment ça va être accueilli ma démarche de pèlerine chrétienne dans notre France quand même très laïque, et j'étais très surprise en fait peut-être que tous ceux même qui sont allés à Compostelle l'ont vécu, mais quand on est dans une démarche finalement spirituelle et d'ouverture à la rencontre et au dialogue, Souvent, ça fait des discussions, ça provoque des discussions magnifiques, et c'était vraiment le cas. Donc ça, j'ai été très heureusement surprise. Effectivement, donc des personnes m'ont confié des intentions, c'était très touchant. Soit des personnes que j'ai rencontrées, enfin qui m'ont accueillie, ou parfois juste des personnes dans la rue qui me demandaient pourquoi j'étais là avec mon sac, une boulangère à qui j'achète du pain et avec qui je discute. Parfois, des gens m'ont donné des sous aussi. Alors, je demandais pas du tout d'argent. Mais des gens m'ont donné des sous pour que je fasse dire une messe à Jérusalem pour eux. Et c'était beau, j'avais une petite enveloppe que j'ai constituée dès avant mon départ avec des intentions de prière. Au début, c'était des intentions de mes proches voilà, ou des gens qui m'ont soutenue dans mon projet. Donc j'avais écrit sur des petits papiers. Et tous les jours, je tirais un papier au hasard et je priais pour cette intention. Et puis peu à peu, j'ai rajouté dans cette enveloppe les intentions de, voilà, d'une personne rencontrée dans la rue, de... Enfin, je ne sais pas, moi, telle passante qui me confie son petit-fils qui part un peu à la dérive, des choses comme ça. Et c'est très beau. Et pour moi, c'était vraiment une manière de me sentir très reliée parce que je partais seule. Mais en fait, toute cette prière et ces personnes qui priaient pour moi, parce que je suis sûre qu'il y en avait, mais aussi ces prières que moi, je portais pour les autres, je me suis dit, mais peut-être que c'est un peu ça, la communion des saints. Jusque-là, c'était un truc qui ne me parlait pas du tout. Parce que c'est un peu, parfois, bon, il y a des trucs de l'Église, c'est un peu du jargon, je ne me suis jamais posé la question et ça ne me parlait pas. Mais là, d'un coup, je me suis dit, c'est peut-être ça, en fait. C'est cette espèce de lien entre nous qu'on crée par la prière. Ils ne savent pas que je prie pour eux, et moi, je ne sais pas ce qu'ils prient pour moi, mais en fait, on est reliés. Et j'ai trouvé ça très beau, ça me donnait beaucoup de force aussi quand je marchais. Et puis, c'était beau de voir ce que ça provoquait chez les gens, le fait d'aller vers cette destination, et y compris des gens d'autres croyances, parce que Jérusalem, ce n'est pas que chrétien. Donc déjà, c'est toutes les croyances chrétiennes, et puis ça peut être aussi des personnes musulmanes ou juives, et ça, je trouvais que c'était très beau. De voir que alors ça se passe pas facilement le fait que Jérusalem soit un symbole pour toutes les religions du livre, mais parfois c'était beau aussi.
Vous aussi, Jean-Claude, on vous a souvent vous écrivez, hein, pense à moi au mur des lamentations, ou même on vous a demandé de déposer un petit mot, de le glisser dans le mur des lamentations à votre arrivée.
Dès la deuxième étape, c'était à Chantonnay, donc j'étais hébergé chez l'accueil Jacquère. Et le couple m'a dit, on a un petit garçon qu'on a adopté, et sa grand-mère était juive. Et il m'a fait un petit mot qu'il fallait que je dépose dans le mur des lamentations. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'en ai eu plusieurs après, ou différentes formes, mais aussi ça nous pousse et ça nous oblige à aller jusqu'au bout, même si parfois les neurones ils commencent à ne plus être d'accord. Et moi, je n'avais pas une démarche pèlerinage pure et dure, entre guillemets, et sans être péjoratif. C'était aussi pour découvrir le monde, mais on s'aperçoit, et je pense que, comme vous, lorsqu'on a affaire à des gens de tous les jours, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif, tout le monde est prêt à aider, chacun à son petit niveau, et il y a toujours un sourire. Jérusalem, c'est vrai que, quand je le disais, il y a toujours l'œil qui pétille. Alors après, c'est vrai que en Syrie, là, c'était compliqué, il ne fallait pas en parler. Surtout, on m'avait dit, en Syrie, ne parle jamais de Jérusalem, parce que les deux pays sont en guerre depuis X années.
Alors, je vais vous poser une question compliquée, parce que vous avez rencontré des dizaines et des dizaines de personnes. Mais si je vous demandais à l'un comme à l'autre, s'il y a une rencontre en particulier qui vous a marqué au long de ces milliers de kilomètres.
Alors, c'est vrai qu'elle est super dure. Alors, elle est très difficile parce que je pense que chaque rencontre est tellement précieuse qu'elles ont toutes été importantes. Mais quand on me pose cette question, il y a une figure qui me revient en particulier, c'était en Grèce. Je cherchais un endroit où dormir. Puis j'avais ma tente aussi, donc j'avais cette possibilité d'être autonome si je voulais, parce que je voulais aussi partir dans des régions plus sauvages si je voulais. Donc ma tente, ça me permettait ça. Et là, il y a trois maisons vides. Je me suis dit, je ne vais pas trouver un endroit où dormir. J'ai la flemme de demander. Je vais chercher un endroit où mettre ma tente. Mais c'était très sec, il n'y avait pas d'eau. Et la seule personne que j'ai fini par rencontrer, c'était un berger. Il était là avec ses moutons. Puis il ne parlait pas un mot de français, d'anglais, ni de rien du tout. Moi, j'avais quatre mots de grec qu'il ne comprenait pas, donc on n'arrivait pas à se comprendre. Comme ça, je me suis assise avec lui et on se parlait sans se comprendre. Mais c'était un moment assez doux. Et puis finalement, une voiture est arrivée, quelqu'un a traduit. Et moi, je lui demandais depuis un moment où est-ce que je peux trouver de l'eau. Et lui, il me répondait, venez chez moi. Et je ne comprenais pas, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on s'était assis sur le bord de la route sans rien faire. Finalement, je suis allée chez lui, où il vivait avec sa famille. C'était un pope. Donc, un pope, c'est un prêtre orthodoxe. Et c'était magnifique comme accueil parce que donc, c'était vraiment à l'ancienne. Hein, il y avait les moutons en bas de la maison. Eux, ils vivaient dans une pièce au-dessus de la bergerie. Et j'ai eu l'impression d'être accueillie dans leur quotidien. Peut-être parce qu'il était berger, parce qu'on avait passé 2 heures en fait, assis ensemble à regarder ses brebis. Il y avait tellement d'amour en lui pour ses brebis. Et puis, il était à la fois paupe aussi, donc berger d'une autre manière. Et je me suis dit, mais c'est ça l'accueil, en fait. C'est vraiment dans cette simplicité d'une évidence. Il y a une étrangère qui passe et on l'accueille. Il n'a pas mis les petits plats dans les grands. Parfois, j'étais gênée quand on m'accueillait parce que j'avais l'impression qu'ils vidaient leur frigo pour moi. Alors déjà, j'étais gênée. Et puis, en tout cas, dans les Balkans, c'était des gens assez pauvres. Et là, c'était juste simple, en fait. C'était leur quotidien. Mais il y avait une place ouverte pour l'étrangère dans ce quotidien. Et puis, j'ai du mal à expliquer pourquoi, mais il m'a vraiment énormément touchée, ce pope avec sa femme. Après, il a revêtu sa belle tenue de pope. Donc, il est passé du berger au pope pendant la soirée. Je les ai pris en photo. C'était très beau.
Jean-Claude, question difficile, hein, je sais.
Ouais. Parce qu'il y a suivant les pays, il y a eu des accueils différents, même si j'allais dans des petits gîtes ou des petits hôtels. Mais il y avait toujours des choses bizarroïdes ou sympas. Et alors, une sur les 231 jours, c'est compliqué, là. Hein. Alors, on peut prendre à l'extrême, c'était en Hongrie, c'était un week-end, parce que c'est après que je me suis rendu compte que c'était un week-end. J'étais pas bien loin du Danube, et il y avait tout un groupe qui était en train de faire la fête, hein, plutôt des cadras, et donc, moi, j'avais déjà plus de 60 ans, donc il y avait quand même une différence. Et puis, on me dit de venir. Alors, je comprends pas trop au départ, et puis, je comprends bien qu'ils étaient à faire la fête. Et bon, ça a été la fête jusqu'à minuit. Donc, ben, j'aurais dit, ben, maintenant où je couche, ben, ils m'ont donné une tente, j'ai couché là, tranquille. Mais on ne se comprenait pas. Hein. Et le soir, au nord de la grillade, et c'est là on dit quand même, il y a une des dames qui me demande, alors je vous rassure tout de suite, je ne suis pas chanteur, mais elle voulait que je lui chante la Marseillaise. Alors là, d'abord, on encaisse le truc. On dit, ben, comment se fait-il que des Hongrois et pour nous, Français, on représente la Marseillaise. Ça faisait bizarre. Bon, comme je ne suis pas chanteur, je suis tranquille, donc je suis fait comprendre. Mais le lendemain, l'accueil a été extraordinaire. Heureusement que le lendemain, j'avais un Doliprane pour calmer tout ça.
Alors, vous venez de dire, hein, vous avez marché 231 jours. Aliénor ne sait pas parce qu'elle ne voulait pas compter, mais enfin...
Le chiffre, c'est votre voilà. Truc, donc je ne sais pas combien de kilomètres j'ai fait, je ne sais pas combien de jours j'ai marché.
Un certain nombre, pour ne pas dire beaucoup. Un nombre certain. Et quand on marche aussi longtemps et sur des distances aussi grandes, il y a forcément des épreuves, des coups durs, hein, en cours de route, que ce soit physique ou mental, des doutes, peut-être des moments où on a envie de tout laisser tomber. Est-ce qu'il y a, Aliénor, un moment ou des moments où vraiment vous êtes dit, là, si j'ai pas un coup de pouce, je plie bagage et je reviens?
Il y a un moment où vraiment je me suis demandé si j'irais jusqu'au bout. C'était en Albanie. C'est un mélange de pas mal de choses, je pense. Bon, déjà, ça faisait déjà 5 mois, je ne sais plus, que je marchais. Donc, peut-être qu'il y avait une certaine fatigue. Je sens que tout mon matériel se cassait. J'ai été malade. Dans un monastère franciscain, des rats ont mangé la moitié de ma chaussure. Donc, la semelle. Donc, je marchais de travers. Enfin, voilà, tout plein de petits trucs comme ça qui fatiguent un peu quand même dans son quotidien. Et puis, en fait, j'ai été hyper bien accueillie en Albanie. Je dis souvent, c'est le seul pays, je suis restée, je crois, 3 semaines là-bas, où j'ai jamais utilisé ma tente, parce que vraiment, toutes les familles m'accueillaient, mais c'était incroyable. Mais j'étais tout le temps sous le regard des gens. C'est-à-dire qu'ils vivent très simplement, c'est un pays assez pauvre. Et quand j'étais accueillie dans une famille, je dormais dans la chambre avec les enfants, dans le salon avec la grand-mère. Toute la famille me regardait me coucher, toute la famille me regardait me réveiller, parce qu'ils n'avaient jamais vu un sac de couchage, parce que j'étais étonnante. Et j'étais jamais seule partout, n'importe où, tous les gens s'arrêtaient pour me parler. Et c'était très bienveillant et gentil, mais c'est un peu oppressant. Et du coup, ça me rendait étrange et étrangère. En fait, je me sentais très seule sous le regard des autres. Ça m'isolait énormément, même si c'était bienveillant. Vraiment, encore une fois, à part un ou deux loulous, quoi. Mais sinon, vraiment, il n'y avait pas de méchanceté là-dedans. Et là, j'ai eu quelques jours vraiment très durs. En plus, je me suis fait attaquer par des chiens. C'est le seul endroit où j'ai vraiment eu peur à cause de chiens. Et j'ai eu quelques jours où la solitude est devenue insupportable. Alors que d'habitude, j'aime vraiment être seule. C'est pas quelque chose qui me pèse. Il y a toujours des moments où ça me saoule, mais c'est pas ce qui me pèse le plus. Et là, il y a eu quelques jours où c'était insupportable. Et vraiment, je me sens d'avoir prié et dit, mais en fait, je ne peux pas continuer comme ça. Je me sens, je ne tiens plus. Je me suis dit, il faut que je retrouve la solitude que j'aime. Donc, je me forçais à midi. Je prenais des très longues pauses, de parfois 2 heures. J'ai essayé de trouver un endroit vraiment à l'écart des regards, caché derrière les arbres, des buissons. J'avais un livre électronique, donc je lisais, je passais 2 heures à lire. Et là, je me ressourçais dans la solitude que j'aimais. Parce que mes soirées, finalement, n'étaient pas très reposantes quand on est tout le temps avec des gens et en plus à devoir parler une langue. Soit on avait Google Trad, mais bon, voilà, c'est un peu folklore, soit on se parlait avec les mains. Donc, ce n'était pas toujours reposant. Et voilà, il y a eu ces quelques jours, vraiment, c'est uniquement la solitude qui aurait pu me faire abandonner. Tout le reste, les difficultés du chemin, moi, c'est jamais que des moments à passer, en fait.
Et vous, Jean-Claude ?
Moi, ça s'est passé en Roumanie. J'étais arrivé à la moitié. J'étais hyper content. J'avais 3000 km de fait. J'étais, je suis rendu à la moitié. Maintenant, je suis dans la bonne moitié. Je vais descendre. Et puis, un matin, au réveil, dans la petite ville de Deva, les neurones se sont mis dans tous les sens. Et j'ai ramassé mes bâtons. J'ai fait mon sac. J'ai envoyé un texto à mon fils. Je lui ai dit, je rentre. Alors, aussitôt, il a appelé. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, non, mais... Je craque, j'en peux plus. Et j'ai été servi par la chance. Et c'est pour ça, quand on est tout seul, ça facilite les choses aussi. Dans la petite ville de Deva, j'ai essayé de retrouver, hein, parce qu'à l'époque, c'était pas les bus, je ne sais plus comment ils s'appellent maintenant, c'était encore Euroline qui existait. Et je voulais rentrer sur Munich et j'ai trouvé aucun bus. Bon, qu'est-ce que je fais ? Alors on commence, on dit, bon, de toute façon, il faut que je sorte de la Roumanie parce que ça... Ça s'était mal passé, mais ça s'était mal passé, c'était de ma faute, parce que j'étais fatigué, donc pas lucide, et on prend tout au drame, entre guillemets. Et donc, j'étais pas loin de la frontière, je suis sorti de la Roumanie, et, bah si, il faut que je raconte celle-ci. Donc, j'arrive à Rad, à la frontière, donc là, dans le bus, on me dit, faut prendre celui-ci, il faut prendre celui-là, j'ai dit... Ouais, j'ai bien raison de rentrer, hein, parce que là, ça va mal se mettre. Et puis, j'arrive à la frontière. Alors, je vois quelqu'un, une dame qui me dit, qui m'explique, qui parlait un peu français. Et je voyais bien qu'elle connaissait tout le monde. J'ai dit, très bien. Alors, on discute. Comment il faut faire pour repasser en Hongrie? Parce qu'en Hongrie, ça s'était bien passé. Parce que dans ma petite tête, je me suis dit, je vais me prendre 2 ou 3 jours de repos pour être tranquille. Donc, j'ai bien l'impression qu'après, c'est un garçon qui arrive, un garçon, quelqu'un de mon âge. Et à un moment, je me paye 2 kilos. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites comme travail? Et là, elle me dit, sex parking. Et en fait, si on ne se fait pas confiance à soi-même, eh bien, je ne serais jamais sorti de la Roumanie parce que ça semblait très compliqué. Alors, en fait, on se prend en charge. Et puis, il y avait un bus à 500 mètres plus loin qui m'a emmené en Hongrie. Et là, je me suis reposé 8 jours pour remettre tous les neurones en place et d'essayer de repartir. Mais les bobos physiques, ce n'est pas grave, ça. Parce que les bobos physiques, on arrive toujours à les guérir si ce n'est pas une jambe cassée. Mais quand c'est les neurones qui commencent à tourner mal. Et pour la petite histoire, François-Xavier de Villemagne, qui me suivait par le blog, il m'a envoyé je ne savais pas qu'il me suivait. Il m'a envoyé un mail en me disant « Te tracasse pas, il m'est arrivé la même chose à la moitié de mon chemin. » Lui aussi, il s'était posé plein de questions. Donc, pour ceux qui iront à Jérusalem dans les années à venir, sachez qu'au bout de 2000 ou 3000 kilomètres, vous aurez une cagade. Et tout.
Voilà. Mais là, finalement, le repos a été la solution de sagesse et ça vous a permis de...
Permis de repartir. De repartir. Et parce que je me suis dit, après, quand on creuse, et pour on veut y aller tout ça. Parce que là, moi, je m'étais mis en tête, parce que c'était un sophrologue qui m'avait dit, il m'a dit, vous mettez une photo en tête, et moi, comme un grand, je lui ai dit, je me mets Istanbul et le mur des lamentations. Il me répond, malheureux, vous irez à Istanbul et vous rentrerez chez vous. Parce que votre photo, ça, vous aurez accompli ce que vous souhaitez. Et après, je me suis mis le mur des lamentations et ça m'a emmené.
Voilà, votre écran intérieur. Alors, justement, Jérusalem, le mur des lamentations, on va avancer un petit peu parce qu'on va aussi peut-être garder un petit peu de temps pour vos questions, bien sûr, et puis pour aussi discuter avec vous, Jérôme. L'un comme l'autre, vous êtes donc évidemment arrivé au bout de ce périple incroyable avec peut-être des impressions ou des sentiments différents. pour vous, donc le but c'était le mur des lamentations. Vous avez eu besoin de passer par le lac de Tibériade, Alinor. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment cette arrivée, elle est à la fois importante, peut-être déroutante, qu'est-ce qui fait ? Et puis on parlera aussi oui, du côté déroutant de Jérusalem avec Jérôme.
Alors c'est vrai que moi, depuis le début, je savais que je ne m'arrêterais pas à Jérusalem, mais que je m'arrêterais sur les bords du lac de Tibériade. J'ai été à Compostelle aussi, je n'ai pas du tout aimé arriver à Compostelle, donc j'ai continué 4 jours de plus jusqu'à Mouxia, jusqu'au bord de la mer. Donc je savais que je ne voulais pas terminer dans une ville. En plus, une ville, Jérusalem, c'est aussi symbole de division, j'avais un peu peur de ça. Et j'avais envie de terminer face à l'eau. Donc là, je me suis dit, la mer de Galilée, c'est magnifique, le lac de Tibériade. Et là, donc, la question, c'était comment je sais que je suis arrivée, c'est ça ?
Oui,
alors, pardon, j'ai bugué.
Qu'est-ce qui fait que, voilà, alors, effectivement, pour vous, ça a marqué l'arrivée. Et puis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où on arrive au bout du périple, et puis qu'à un moment donné, il faut se dire, je repars.
Je préfère redemander, sinon, je vais me laisser embarquer. Je vais répondre n'importe quoi. Alors, l'arrivée, donc, en fait, quand je suis arrivée en Terre Sainte, à Chypre, j'ai pas réussi à trouver de bateau pour traverser, donc j'ai pris l'avion jusqu'à Tel Aviv. Mais je me suis dit, j'ai vraiment envie d'arriver à pied, et Tel Aviv, Jérusalem, c'est très court. Donc j'ai pris un bus jusqu'à Eilat, donc c'est la mer Rouge, c'est le sud, et de là j'ai traversé le Negev. Donc j'ai eu quand même une première arrivée à Jérusalem, surtout une arrivée après, je sais plus, 2-3 semaines de marche, je me souviens plus combien de temps ça a pris, où j'ai traversé le désert et c'était très très fort. Donc ça a vraiment été une étape importante et je ne pensais pas que ce serait aussi important. L'arrivée à Jérusalem aujourd'hui, on commence d'abord par marcher 2 heures en banlieue. Ça casse un peu le mythe. Enfin, c'est plus le désert aux portes des murailles quand même. Hein. Mais quand... en plus, j'avais mal aux pieds. Enfin, j'ai eu plein de soucis de chaussures, donc bref, j'avais mal aux pieds. Et j'arrive devant les murailles de Jérusalem et là, j'ai vraiment senti une émotion forte parce que pour moi, c'était une ville... Ça fait 1000 ans que des pèlerins vont là-bas. Et de me dire que en fait, cette émotion-là, je l'inscrivais. Enfin, des milliers de personnes l'avaient vécu avant moi. Ça a été très fort. Ensuite, j'étais très déroutée par Jérusalem, par toutes ces reconstructions. Ça ne m'a pas beaucoup touchée. Enfin, ça m'a intéressée, mais pas forcément beaucoup émue. Puis j'ai continué, donc 10 jours, je crois, jusqu'à Tibériade. Je ne savais pas où je m'arrêterais. Je ne m'étais jamais dit à quel endroit je terminerais. Le matin, je suis partie de Tibéas, la ville. Et je suis partie en me disant peut-être que c'est ma dernière journée, peut-être pas, je ne sais pas. Et puis, en chemin, j'ai rencontré 5 pèlerins italiens, un groupe incroyable, improbable et incroyable. On a vite sympathisé. En fait, j'ai passé ma journée à marcher avec eux jusqu'à Tabga. Et c'était magnifique. Et en arrivant à Tabga, je me suis dit, mais c'est la fin. Et je crois que, vous savez, on imagine forcément à quoi ça va ressembler. Moi, je me voyais un peu face au lac, toute seule, en larmes, les violons et tout. Et en fait, mais c'était pas du tout comme ça. J'ai trouvé ça très beau de terminer avec eux. Le lac de Tibériade, la Galilée, c'est là où Jésus a vécu. Il était avec ses amis, ses compagnons, ses disciples. Il n'était pas seul. Et je trouve ça magnifique qu'il m'a offert 5 compagnons avec qui j'ai terminé cette marche. Et on a vraiment fini ensemble dans le sens où à Tabga, on n'a pas trouvé d'hébergement ensemble parce que demander l'hospitalité à 6, c'est pas la même chose que demander tout seul. Donc je suis repartie avec eux à Tibériade. On allait manger, ils m'ont offert une pizza cachère et une bière le soir pour fêter mon arrivée. Et voilà. Et en fait, c'était ça, en fait. J'étais en Galilée, j'avais trouvé des compagnons de voyage, comme Jésus avait eu ses compagnons au bord du lac. Et c'était très beau. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour atterrir, pour comprendre ce que j'étais venue chercher là-bas. Après, j'ai fait une semaine de retraite en silence, toute seule, quoi, sur les collines de Galilée. Et il m'a vraiment fallu ce temps-là pour me dire, mais en fait, pour qu'est-ce que je suis venue chercher là ? Qu'est-ce que je fais là ? Ça a été un long chemin et qui continue, hein, comme on dit. C'est même après, on ne sait toujours pas bien pourquoi on y est allé.
Vous aussi, Jean-Claude, vous dites qu'il vous a fallu 9 mois pour digérer vos 230 jours de marche, 231.
Oui.
Mais ce jour-là, de l'arrivée à Jérusalem et à ce fameux mur de lamentation, qui était cette image, qui était votre pôle intérieur, qu'est-ce qui s'est passé ?
C'était un 17 décembre. Dans le milieu de l'après-midi, on arrive là, puis on dit c'est fini maintenant. Et il faut l'encaisser quand même, parce qu'on se dit, voilà. Bien que dans ma tête, je savais que j'allais aller le 24 décembre à Bethléem, mais on dit maintenant c'est fini, j'arrive. Comment je vais digérer tout ça ? Et c'est vrai que on se pose plein de questions. On s'y pose après, mais on se laisse aller aussi, parce qu'on est tellement content, entre guillemets, mais on ne se rend pas compte qu'on est content. Parce que le but est atteint. Et si le but est atteint, il y avait aussi de la peur, entre guillemets, pas d'une descente aux enfers, mais dire maintenant, j'ai vécu pendant 231 jours de façon extraordinaire. Maintenant, on va retomber dans le quotidien, donc c'est pas facile. Et puis, quand on arrive au mur des lamentations, bon, ce qui est impressionnant, à Jérusalem, j'ai remarqué avant, c'est aussi le nombre de gens ou le nombre de jeunes qui sont en armes. Donc là, mais on s'habitue. Ce qui est triste, c'est qu'on s'y habitue. Ça avait commencé en Turquie, mais après, on s'habitue à voir des gens en armes et ça ne gêne plus personne. Enfin, moi, ça ne me gênait plus du tout. Et c'est un peu. Et donc, on est devant ce mur et on se dit, oui, ça fait 2000 ans qu'il est là. Et donc, pour faire le lien avec le début de l'échange, donc j'avais moi aussi des petits billets. Donc, on les met dans les fentes du mur en mémoire de tous les gens qu'on a pu rencontrer. Et puis là, on est dans un espèce d'état second, de toute façon.
Merci à tous les deux. Alors, Jérôme, on a encore un petit moment avant de vous proposer, de poser vos questions. Vous êtes, vous aussi, très marqué par Jérusalem, où vous êtes allé très souvent dans le contexte de l'accompagnement de pèlerinage. On va échanger, pardon, merci beaucoup. Merci. Et Jérusalem, ça ne laisse pas indifférent, et les pèlerins que vous accompagnez, et vous-même, j'imagine.
Oui, alors. J'y suis allé 9 fois.
9 fois,
oui. 9 fois, ce qui n'est pas extraordinaire, parce que j'ai des confrères qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, et moi j'ai une toute petite expérience de Jérusalem, mais c'est vrai, ce qui est vrai, c'est que moi je ne connais pas cette question que vous avez posée, et ça c'est fini, et maintenant, puisque une fois qu'on est allé, surtout dans les pèlerinages que nous organisons, et nous, on accompagne, donc on est un peu dans notre mission, mais notre envie, c'est d'y revenir. Et aujourd'hui, c'est encore la question, on ne peut plus y aller en groupe en ce moment, mais la véritable envie, c'est quand est-ce qu'on va revenir, et on y reviendra, c'est sûr. Donc, c'est Jérusalem, c'est vrai que c'est une ville extrêmement déroutante, une ville très, très déroutante à tout point de vue, mais et très complexe. Mais parce que ce que nous disent d'ailleurs nos pèlerins, c'est qu'on arrive avec plein de questions, mais on vient avec beaucoup plus de questions qu'au départ.
Oui.
Tellement la complexité n'est pas celle qu'on croyait. Et on perd un peu les idées toutes faites qu'on a quand on arrive. Notre rôle, c'est d'essayer de, non pas d'apporter des réponses, mais c'est de faire que chacun puisse trouver les réponses dans les différentes rencontres qu'on essaye d'organiser, tant du côté palestinien que du côté israélien. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer maintenant, parce que c'est
oui, vous ne savez compliqué. Pas encore quand vous allez pouvoir reprendre,
non, pas du tout.
Reprendre ces pèlerinages, mais en tout cas, et puis vous dans les propositions que vous faites aussi, l'arrivée à Jérusalem est précédée de tout un périple.
Alors, ça c'est vrai, c'est vrai que la démarche est très différente, puisqu'on n'a pas ce chemin, on n'a pas cette question de la solitude, ou pas. On constitue un groupe avec des personnes qui ne se connaissent pas, pour la plupart. Et donc, il y a déjà cette petite question d'essayer de faire groupe, on est ensemble pour une démarche que l'on partage, puisqu'on fait un déplacement physique qui est assez court, c'est 9-10 jours, mais c'est surtout un déplacement intérieur qui se produit pour la plupart. Les gens disent je suis parti en voyage et en fait j'ai fait un pèlerinage. On a souvent cette remarque-là. Il y a une pédagogie, c'est vrai. On ne va pas à Jérusalem de but en blanc. On commence par le désert, que ce soit le désert du Négev ou le désert de Judée, qui est un autre désert un peu différent, qui n'a pas la même physionomie, ou le désert de Jordanie, parce qu'il nous arrive de commencer par la Jordanie avant d'arriver en Israël. Et il y a le fameux désert du Wadi Rum, qui est un désert magnifique, rouge, absolument superbe. Ensuite, on passe par ce lieu extraordinaire qui est la grande dépression, qui est celle de la mer Morte, le lieu à moins 400 mètres, le lieu les profonds, le lieu habité le plus profond, le plus bas de la Terre. Jéricho est une des villes les plus anciennes du monde, à moins 300 mètres. Elle, c'est chargé de sens tout ça. On va ensuite vers la Galilée, qui est vraiment le contraste total avec le désert, puisque la Galilée, c'est la terre verte, la terre arrosée par le Jourdain qui est encore et par la Tibériade. On passe de l'Ancien Testament du désert vers la Galilée, qui est vraiment le Nouveau Testament avec le Capharnaüm, qui était la ville du Christ, où Christ a vécu avec ses amis. Et quand on arrive à Tibériade, je ne sais pas si Alinor, vous avez vécu ça, mais on est sur des lieux qui ne sont pas très peu construits, très peu abîmés, et on a des images qui sont celles que le Christ a vues. Donc c'est extrêmement émouvant. Et là, il y a des Tabga, c'est le lieu d'un... C'est lieu de la multiplication des pains. Il y a juste à côté, il y a le mont des Béatitudes. Enfin, et tout ça dans un tout petit périmètre. C'est vraiment extraordinaire. On a des photos. Moi, j'ai une photo d'une petite barque prise d'Almanuta où il y a des pêcheurs en train de pêcher. Enfin, voilà, on a les pages de l'Évangile sous les yeux. Enfin, c'est extrêmement prenant.
Gardez bien le micro, là.
Et oui, pardon. Et ensuite, seulement, on monte à Jérusalem comme beaucoup l'ont fait avant, et Alinor l'a très bien dit. Ce qui est très émouvant, c'est qu'on n'arrive pas, nous, comme ça, on arrive dans les pas de pèlerins qui sont venus depuis plus de 1000 ans et qui nous ont précédés. Voilà. Et on arrive avec toutes les intentions qu'on porte, etc. Et ça, c'est vraiment important.
Ce qu'on entend bien dans vos trois expériences, hein, qui sont différentes, mais c'est que voilà, Jérusalem, alors non pas se mérite, mais en tout cas se prépare. On n'y arrive pas comme ça de but en blanc d'un coup d'avion. Il faut quelque chose avant pour s'y préparer. Alors, merci vraiment à tous les trois. C'est un peu rapide, mais il faut aussi que vous puissiez... On va peut-être faire passer des micros pour que vous puissiez, pendant 10 petites minutes, poser des questions. Et puis ensuite, bien sûr, le temps des dédicaces va être l'occasion de continuer la conversation avec les uns ou les autres, ou avec vous, Jérôme, si certains souhaitent se renseigner sur les propositions qui sont faites par le diocèse.
Moi, je ne peux pas vous garantir que vous aurez des rats dans les chambres qui mangeront les chaussures. Et on sait tous les soirs où on couche.
Voilà, alors, qui souhaiterait peut-être, de ce côté-là, poser des questions, allez-y vraiment, qu'elles soient pratiques ou spirituelles, toutes sont bienvenues.
Bonsoir, ma question était plus pour les pèlerins marcheurs. J'avais envie de vous dire, et après, qu'est-ce qui s'est passé après pour vous, votre retour à la vie, entre guillemets, normale?
Le retour à la vie normale, c'est très dur. Moi, c'était fin décembre. Je suis revenu à Montaigu le 28 décembre. Et peu de temps après, il y avait la cérémonie des vœux organisée par la mairie. Et certains ont voulu, enfin, quelques personnes que je connaissais me parler de Jérusalem, enfin, de ce que je venais de faire. Et très rapidement, je me suis aperçu que... Les gens ne comprennent pas. Pourquoi on était... Pourquoi, je ne sais pas. Et si bien qu'après, très rapidement, je me suis, entre guillemets, refermé. Et il m'a fallu à peu près 9 mois pour évacuer, digérer. Et j'avais l'intention de faire un diaporama. Et ce diaporama, je l'ai commencé, je suis revenu le fin décembre. Et je l'ai recommencé que début octobre, donc 9 mois après. Et je l'ai présenté début décembre, et là, ça allait mieux après. Parce que c'est très difficile de... Et on l'a dit tous, pourquoi on y va, ben, on ne sait pas, hein, parce que ça nous emmène, on a envie de voir autre chose, on veut voir nos origines, voir des gens avant, voir rencontrer. C'est compliqué.
C'est vrai que c'est quelque chose, puis enfin, moi, en tout cas, je n'y pensais pas du tout au retour, hein, que ce soit avant ou pendant. Et ce qui était difficile pour moi, c'était aussi de... Alors, j'ai changé, j'habitais à Paris, je suis partie vivre en Savoie, j'ai commencé un nouveau travail, donc il y a eu pas mal de nouveautés, ce qui m'a aidée, hein, quand même. Mais au bout d'un certain temps, c'était de... Il y avait beaucoup moins d'adrénaline dans mes journées, plus de sécurité, ce qui est bien aussi. Mais c'est difficile de se réhabituer. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était difficile de me réhabituer à une vie avec un peu moins d'adrénaline. À la fois, oui, c'est plus confortable, mais il y a moins d'intensité dans ce que je vivais. Et il a fallu vraiment que je fasse un travail pour me dire, mais ma vie est belle, même si c'est moins intense. Enfin, vous allez peut-être d'une autre manière, mais voilà, ça a été un vrai apprentissage de me réapproprier ma vie quotidienne avec plus de sécurité. Après, j'ai eu la chance, donc je me suis installée en Savoie, donc je vis au pied des montagnes. Donc ce lien très fort avec la marche et la nature, je peux le garder de cette manière-là, et ça, c'était essentiel pour moi. Je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à me réinstaller à Paris. Mais sinon, c'est vrai que c'est très, ce que vous disiez, c'est très difficile de partager. Pas par manque de volonté, mais parce que c'est un peu hors norme, quand même, comme mode de vie. Et c'est difficile de mettre des mots dessus. Moi, quand on m'a proposé d'écrire ce livre, donc le voyage, c'était il y a 7 ans, et le livre, on m'a proposé de l'écrire il y a 2 ans. Au début, je me suis dit, mais non, j'avais toujours dit que j'écrirais pas de livre. Et en fait, ça a été très beau. J'ai adoré écrire le livre, et encore plus de partager aujourd'hui, parce que justement, c'est une manière d'arriver à partager ce qu'on a vécu. Et vous savez, vous avez vu le film Into the Wild, enfin, il y a un livre aussi, mais que j'ai pas lu. Et à la fin, il écrit, c'est sur les fenêtres de la caravane, le bonheur ne vaut que s'il est partagé. Et je me dis, c'est vraiment très juste. Et ce voyage, j'ai l'impression que d'avoir écrit le livre et de partager autour de tout ça, ça me décuple le bonheur que j'ai vécu en le faisant. Donc, le livre, je le remercie pour ça.
Alors, heureusement pour vous, Aline, ça s'est mieux terminé que dans Into the Wild. Mais voilà, j'en profite pour vous dire que c'est un véritable bonheur de lecture, les deux livres, vraiment. Je ne suis pas là pour faire l'article, puisque je n'appartiens ni à l'un, ni à l'autre des maisons d'édition, mais ils sont tous les deux très, très agréables à lire. Voilà. D'autres questions, peut-être ? Pour Aliénor.
Pour demander l'hospitalité, je pense qu'il doit falloir beaucoup de courage, ou comment fait-on ? Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui vous ont fermé leurs portes, ou bien comment on s'y prend ?
Alors, c'était une vraie question. Hein. La première fois où j'ai demandé hospitalité, donc c'était en France, la troisième étape, je crois, parce que les deux premières étaient organisées, et je me suis pris un vent phénoménal. J'ai parlé à quelqu'un qui jardinait dans son jardin et qui m'a dit « Non, mais ici, personne ne nous accueillera. Enfin, » Donc, effectivement, il y a des stratégies, mais ça, au début, on ne les connaît pas, donc c'est en expérimentant. Et ça dépendait vraiment des pays et des cultures. En France, alors, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont vécu des expériences un peu différentes, hein, donc là, c'est que mon expérience. Mais en France, j'allais beaucoup vers les lieux collectifs. Les mairies, les offices de tourisme, les fermes aussi, qui sont des lieux très ouverts. Parfois, les cafés, les restos, les supérettes. Enfin, j'évitais les villes, hein, donc j'étais beaucoup dans les villages. Quand il y avait des paroisses et des monastères, j'y allais, mais il n'y en a pas forcément tout le temps, pas beaucoup. Et de là, souvent, le dialogue commençait et j'arrivais à être accueillie. J'ai beaucoup dormi et été accueillie dans des fermes. Je ne m'attendais pas à ça. Et ensuite, ça dépendait beaucoup des pays. En Italie, les paroisses, pas mal. Dans les Balkans, par exemple, beaucoup de lieux touristiques m'ont accueillie gratuitement. Soit des campings, des gîtes. Je trouvais ça génial parce que je veux dire, s'il y a trop de monde comme moi, eux, ils mettaient la clé sous la porte. Hein. Et très, très gentiment, ils m'offraient même une glace, du café. Enfin, dans les Balkans, un petit shot de raki. Bon, ça, vite fait, j'ai dit non parce que c'est très fort. Mais oui, il y a des stratégies à avoir et beaucoup d'abandon. C'était pas facile. Je me souviens en Israël, donc ça faisait quand même des mois que je voyageais de cette manière-là. J'arrive dans une petite ville un soir ou un village, je ne sais plus, et puis je me dis, allez, il faut que je demande l'accueil. Et puis à chaque fois, quand même, en fin de journée, j'avais un nœud dans le ventre en me disant, mais est-ce que je vais trouver ? Alors que pourtant, ça faisait 6 mois que je voyageais comme ça. Et je me suis dit, à la fois, c'est le plus difficile de mon voyage, c'est peut-être ça, c'est le fait de demander l'hospitalité. Et en même temps, c'est le plus beau. Parce que quand on n'a rien, tout ce qu'on nous donne, c'est un cadeau, c'est merveilleux. Donc voilà. Après, bon, je me suis pris quelques noms. Mais ça fait réfléchir à la façon dont on dit non aussi. Parce qu'il y a des noms qui ne blessent pas, qui me frustrent. Quand je me souviens une fois des sœurs qui me disaient « Non, on ne peut pas m'accueillir », mais elles m'ont expliqué pourquoi. Elles m'ont donné des conseils vers où aller et elles m'ont filé des biscuits. Je suis partie. Bien sûr que j'étais enthousiaste à l'idée de marcher quelques kilomètres de plus, mais je me sentais bien. Et en revanche, il y a des noms qui m'ont vraiment fait pleurer. Donc ça me fait beaucoup poser la question de comment est-ce qu'on dit non, en fait. Et comment il y a des noms qui peuvent être très respectueux pour les autres. Moi, j'étais finalement, mon dénuement était un peu artificiel, dans le sens où j'avais comme une carte bleue dans mon sac et j'aurais pu à tout moment m'échapper de là, mais pour des gens pour qui ce n'est pas un choix, pour qui le dénuement, bah, c'est des circonstances de vie, un enchaînement qui font qu'ils sont là. Je me dis, mais qu'est-ce qui doivent être durs à entendre par moment ?
Alors, peut-être encore une dernière question. Allons-y.
Oui, vous venez de parler de dénuement. Vous êtes parti de l'ouest vers l'est, en gros. Et là, actuellement, il y a des milliers de personnes qui viennent de l'Est. Est-ce que dans vos marches, vous avez été confrontés ou est-ce que vous avez rencontré ces gens qui essayent de trouver une vie meilleure en Europe ?
Moi, c'était en 2009. Non. Il n'y avait pas encore toute cette migration des Syriens qui sont arrivés en Europe. Non, jamais.
Alors moi, je n'ai pas rencontré de migrants, en tout cas, qui étaient en train de faire ce trajet-là. En revanche, c'était très présent déjà parce que c'est arrivé, par exemple, je me souviens d'un prêtre qui m'ouvre une salle paroissiale, mais en me demandant mon passeport, en m'expliquant à cause du terrorisme, il préfère vérifier qui je suis. Voilà, quelques moments, des personnes qui me demandaient mon passeport, qui me demandaient où j'allais, voilà, qui étaient rassurées quelque part quand j'étais française. Donc voilà, déjà ça. Ensuite, c'était très présent parce que moi, ça m'habite énormément, cette question-là. Moi, j'ai toujours travaillé dans le social. J'ai beaucoup travaillé avec des migrants en région parisienne, donc, notamment les migrants à la rue, donc ceux qui étaient vraiment dans le dénuement. Donc j'étais très habitée par ça et par le côté un peu très déséquilibré de ma situation, c'est-à-dire où moi, c'était ce chemin que je faisais, il était il n'était pas vital dans le sens où ma vie n'en dépendait pas, ma vie intérieure peut-être, mais pas ma vie, mon intégrité physique. Mais j'avais cette liberté de le faire, j'avais le passeport pour le faire et j'étais en plus accueillie. En revanche, ceux pour qui c'est vital, ça peut être une question de vie ou de mort, eux, ils n'ont pas la liberté de le faire et on leur met des bâtons dans les roues. Donc ça m'a beaucoup questionnée. J'en rêvais la nuit, ça m'a énormément habité, cette question-là. J'ai eu la possibilité d'en parler avec des personnes. Quand j'étais en Albanie, c'est un pays d'où partent beaucoup de jeunes. Et donc moi, je parlais avec leur famille, en fait, souvent, qui voient leurs jeunes partir en France ou en Allemagne ou ailleurs. La Bosnie aussi, beaucoup de jeunes qui quittent ces pays-là. Donc, alors, est-ce que c'est parce que c'est moi aussi qui est un sujet qui m'intéresse que je l'abordais, mais en tout cas, ça a été très présent, au moins dans mes pensées.
Bon, eh ben, écoutez, je vous propose peut-être d'applaudir et de remercier nos invités. Et puis donc vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, les retrouver tout de suite, juste à la sortie de la salle.
Merci à tous les quatre. Merci beaucoup à Marie-Vonne d'être venue spécialement pour animer cette table ronde. Marie-Yvonne, et à travers Marie-Yvonne, on salue bien sûr tout l'hebdomadaire Le Pèlerin. Donc, Thibaut de la librairie Siloé va pouvoir vous accueillir pour la séance de dédicace avec nos auteurs. Moi, je vais revenir à des choses beaucoup plus pratiques. Les portes fermeront vers 18h, 18h15 pour le forum. On les rouvrira vers 19h45 pour la soirée